Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à l'émission Parlons Droit, ici à Radio Envol 91 FM. L'émission Parlons Droit vous vient de la part du Centre InfoJustice, un centre d'information juridique qui cherche à améliorer l'accès à la justice pour les francophones ici au Manitoba. On vous rappelle nos services ici à InfoJustice sont gratuits et confidentiels. Et pour toute question juridique, vous pouvez nous contacter au 204-815-5274 ou encore en visitant notre site web www.infojustice.ca. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, on a le réel plaisir d'échanger avec un invité très spécial. Aujourd'hui, on a avec nous Maître Stephen McIntosh. Puis Maître Stephen exerce le droit au Manitoba depuis 2014. Il a accompli un bac en art à l'Université de Saint-Boniface en 2009. Ensuite, il a obtenu son diplôme en droit à l'Université de Saint-Boniface en 2012. Par la suite, Maître Stephen a pris des sessions de formation en droit des affaires à l'Université du Manitoba, ainsi qu'au Centre de développement du Manitoba en 2019 jusqu'à 2021. Puis au cours des 5 dernières années, Maître Stephen a négocié des dizaines d'acquisitions technologiques majeures, y compris des projets de formation de plusieurs millions de dollars. Son expérience en tant qu'avocat interne d'une grande entreprise canadienne de services financiers a permis à Maître Stephen d'acquérir une connaissance unique de la façon dont les décisions d'affaires sont prises du point de vue de la gestion des risques. Maintenant, Maître Stephen a son propre cabinet juridique nommé McIntosh Law and Technology. Maître Stephen est parfaitement bilingue et offre des services juridiques en français et en anglais dans plusieurs différents domaines de droit, tels que les contrats, les négociations, les sociétés, les entreprises, la propriété intellectuelle, les règlements de différends, les testaments, les situations et aussi en immigration. Donc, bonjour, Maître Stephen McIntosh. On vous souhaite la bienvenue à l'émission aujourd'hui.
Merci, Jana. Bonjour. Je ne dirais pas, par contre, que je suis parfait dans mon français. En fait, je suis un anglophone. Il a travaillé très fort pendant des années pour apprendre le français et essayer de le maîtriser. Mais évidemment, de parler dans une langue autre que sa langue maternelle n'est pas évident. Et des fois, je trouve même au travail, c'est parfois très difficile. Qu'on doit, par exemple, faire des recherches pour trouver le bon mot, les traductions. Souvent, j'appelle mon collègue Maître Daoudi pour ses pensées par rapport à certains mots, certaines traductions. Et en fait, c'est très normal de devoir faire cela. Entre-temps, je dirais qu'il y a beaucoup de francophones ici à Saint-Boniface et en fait partout au Manitoba qui veulent obtenir un service d'un avocat dans leur langue. Et donc, je dirais pour tous les étudiants de droit, si vous voulez faire l'effort et apprendre le français, il y a un marché pour les services dans cette langue. Et c'est très important pour tout le monde que l'on pousse ensemble afin d'offrir ces services et aussi de pouvoir revendiquer les droits des francophones ici au Manitoba et en fait partout au Canada.
Votre français est très impressionnant, spécialement pour quelqu'un, comme vous le mentionnez, c'est votre deuxième langue. Est-ce que vous avez appris votre bac en droit à l'Université d'Ottawa en français ou est-ce que vous l'avez fait en anglais?
En fait, c'était un bac ainsi qu'une licence en droit, c'est-à-dire licence en droit civil québécois et aussi un bac en common law ontarien. Maintenant, la common law, c'est le droit qui existe partout au Canada, ailleurs que le Québec. Et donc, le bac en droit ontarien, c'est équivalent au droit manitobain. C'est la même chose et ça compte pour obtenir son statut au barreau, pour être appelé au barreau. Les cours, en fait, étaient pour la plupart tout en français et ça, c'était très difficile, surtout au début des études. Oui. Où j'ai dû commencer d'abord à écrire des examens en français. ainsi que de prendre tous les cours en français. Mes amis là-bas, mes collègues que j'ai rencontrés à l'école, c'était un mélange de francophones, d'anglophones, de francophiles, peut-être on dirait, pourrait dire comme moi. Mais ce n'était pas évident pour tout le monde, c'était difficile, mais ça valait la peine. Et je dirais que c'était peut-être le challenge le plus important de ma vie, d'aller étudier dans une deuxième langue. Pourtant, je ne me plains pas. Je dirais que ça m'a donné une opportunité de peut-être mieux connecter avec beaucoup de mes clients du Nord-Afrique qui parlent peut-être le français comme troisième langue ou bien les Congolais qui parlent d'abord Lingala et par la suite peut-être français. Ça me permet un peu, je pense, mieux de connecter avec d'autres personnes qui vivent un peu la même difficulté de vivre dans une deuxième langue et surtout peut-être le fait qu'on vit ici au Manitoba où la plupart du business se fait en anglais en fait. Même en français, c'est pas toujours évident. On doit faire un effort pour pouvoir faire du travail et travailler en français. L'opportunité n'existe pas toujours et donc cette expérience de vivre en milieu minoritaire, dans le sens de parler français ici et aussi de parler ma deuxième langue. Je pense que ça m'aide beaucoup à comprendre les défis que mes clients vivent quotidiennement. Et je pense que peut-être c'est une bonne place dans notre entrevue ici pour faire un petit... une transition vers les questions d'immigration. Parce que, comme j'ai mentionné, j'ai des clients qui viennent, par exemple, du Maroc ou de l'Algérie ou bien du Congo. Évidemment, c'est des personnes qui viennent d'ailleurs et qui vont vivre certains défis à essayer de devenir de devenir des Canadiens dans le sens de l'immigration.
Définitivement, je crois que ce thème d'immigration peut intéresser plusieurs de nos auditeurs. Donc, avant qu'on commence, dans les questions un peu plus techniques, quel genre, est-ce que vous pouvez nous expliquer, juste de manière générale, quel genre de dossier est-ce que votre cabinet traite, puis quel genre de service est-ce que vous pouvez offrir à des nouveaux arrivants peut-être, ou des personnes qui ne sont peut-être pas au Canada, quel genre de service est-ce que vous offrez dans le domaine de l'immigration?
Je dirais que notre cabinet et nous autres, nous avons deux avocats à notre cabinet, dont moi, et aussi Maître Philippe Zayed. Maître Zayed, lui aussi, il vient d'Ottawa, ou plutôt, lui, il vient d'Ottawa, il a fait ses études là-bas. Pourtant, moi, je viens de Winnipeg, mais j'ai fait mes études à Ottawa. Mais nous deux, nous offrons des services, je dirais, assez généraux. Dans le sens que nous faisons le droit de l'immobilier, le droit des contrats, le droit de l'emploi, mais aussi le droit de l'immigration. Et comme vous avez posé la question, comment est-ce qu'un avocat qui offre des services généraux peut offrir des services aux immigrants? Bien, dans mon expérience, les personnes qui déménagent au Canada sont des personnes qui sont très ouvertes, qui sont très hâtes à atteindre un succès personnel, qui vont travailler très fort et ça ne les prend pas longtemps souvent d'acheter des maisons, par exemple, ou bien d'entreprendre des commerces et de commencer leur propre business. C'est quelque chose que j'adore faire, c'est essayer de prendre du temps avec des personnes qui sont peut-être connaissants des systèmes dans leur pays, mais qui veulent apprendre comment marchent les systèmes ici. Et ça peut inclure, par exemple, la façon que les maisons sont vendues, les questions techniques de... comment les documents sont enregistrés, comment l'argent est transféré, quelles sont les dépenses, par exemple les taxes du gouvernement sur les achats. Et ils veulent mieux comprendre ça. J'ai déjà eu plusieurs clients qui m'ont dit « Je suis venu ici afin que mes enfants puissent avoir plus d'opportunités. Et moi, je veux apprendre des détails des transactions. Comme ça, quand mes enfants, ils vont acheter leur propre maison, je peux moi-même expliquer comment le système y marche. Et donc, c'est une certaine, un certain désir de comprendre comment le système marche ici afin d'offrir ces opportunités à leurs enfants. Moi, je vois ça comme des investisseurs dans leur temps et dans leur... bon, en fait, ils sont venus ici pour investir leur temps afin de donner plus d'opportunités à leurs enfants. Et là, on parle d'une certaine façon, il y a des immigrés qui sont dans le contexte économique, ils viennent ici afin de travailler en français, afin d'avoir plus d'opportunités. Mais il y a aussi des personnes qui doivent quitter leur pays et ce n'est pas par leur désir de quitter, mais c'est en raison de la situation qui les met personnellement dans un danger relatif. Normalement à l'intervention de l'État, c'est-à-dire on ne peut pas se fier sur la police de nous protéger. On parle de la corruption, on parle de la violence, on parle de la discrimination, de la persécution contre des ethnies, contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle. Quant au fait que, par exemple, dans certains pays, les femmes sont moins bien traitées, elles sont subordonnées aux hommes. Et si, par exemple, j'ai déjà vu ça, si une femme est déportée et est enlevée du pays, enlevée du Canada pour retourner dans son pays, elle pourrait subir un préjudice énorme dans certains pays en raison même de la culture du pays. Qui engendre une certaine discrimination et persécution systématique dans tout le pays au large. Et donc, il y a plusieurs différents types de personnes qui vont déménager ici au Canada, mais je pense que tout le monde partage un peu le même désir de bien réussir dans la vie, de s'ils ont des enfants, de donner cette opportunité à leurs enfants et aussi de s'intégrer dans la communauté. Et l'autre chose que je vois, ce n'est pas toujours si facile de s'intégrer dans notre communauté ici, de la francophonie au Manitoba. Ce n'est pas toujours si évident. Et souvent, c'est un désir des personnes qui viennent ici. Ils veulent faire partie de la communauté au large. Ils veulent vraiment s'intégrer et aussi de trouver une position où ils peuvent non seulement... ajouter leurs propres connaissances, mais aussi d'influencer d'une certaine façon la communauté, d'utiliser leurs connaissances qu'ils ont apprises, soit en quittant pour des raisons économiques, soit en quittant pour des raisons de danger à la personne. Ils veulent utiliser ces connaissances antérieures pour essayer d'améliorer le sort de tous les francophones ici au Manitoba. Et je vois souvent ça chez nos immigrés.
Je voulais profiter pour avoir une précision là-dessus. Et là, comme tu exploites beaucoup de dossiers dans les domaines de l'immigration, alors parlons un peu d'une personne qui se retrouve ici au Canada, mais qui n'a pas de statut, mais qui a peur de retourner dans son pays parce que elle s'est dit, bon, dès que je rentre, je vais faire face à une persécution. Lorsque tu es devant cette personne, qu'est-ce que tu peux lui conseiller pour faire? Est-ce que rester comme ça ou quelle est la procédure qu'il peut faire pour quand même ne pas faire face à cette persécution dans son pays?
Bon, d'abord, admettons que je vais donner un exemple hypothétique. Je
Voilà.
ne peux pas évidemment parler de mes clients et de leur situation personnelle,
Bien
mais
sûr.
généralement,
Oui.
je vois souvent les mêmes types de situations. Et donc, je vais parler généralement des types de scénarios que je
Voilà.
vois. Par exemple, je vais donner l'exemple hypothétique d'une personne qui vit dans un pays où la loi charia remporte et que c'est illégal d'avoir des relations homosexuelles, par exemple.
Voilà.
y a quelqu'un qui vient d'un pays, je ne vais pas nommer le pays, mais disons, il y en a plusieurs pays qui ont ces types de lois qui sont en vigueur. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui aura vécu des expériences en grandissant à l'école primaire, d'avoir essentiellement des conseils des agents religieux qui vont venir dans les écoles pour dire ce n'est pas OK d'être homosexuel, c'est illégal et vous devez changer si vous avez des sentiments comme ça. Donc, ils vont vivre dans une situation où pendant peut-être une vingtaine d'années, ils vont être toujours. Ils vont toujours subir ces mêmes types de pression sociale. Et un jour, cette personne, il quitte le pays comme étudiant pour venir au Canada. Là, il est au Canada et il voit tout un autre monde. Il voit que, par exemple, il y a un groupe de personnes qui sont fiers d'être LGBTQ. Ils sont fiers de leur propre, de leur orientation sexuelle, par exemple. Ils sont fiers de ça. Ils voient, commencent à voir la personne qui a quitté son pays. Ils commencent à voir qu'il a toujours ressenti qu'il était un peu différent que les autres. Mais soudainement, il est au Canada. Il commence à voir, OK, peut-être je suis comme ça. Et avec le temps, il commence à. C'est presque comme il apprend. Il est vraiment qui, disons. Il a la chance de sortir au public et de vivre honnêtement, disons. Il est libre. C'est plutôt une question de liberté. Il est
Oui,
libre
c'est
de
ça.
vivre comme il devrait le vivre. Voilà. Et alors, maintenant, il est au Canada. Son visa d'étudiant risque d'expirer.
Voilà.
Et il commence peut-être à aller voir des organisations sociales. Il y a une place à Winnipeg qui s'appelle Welcome Place. Souvent, il y a des personnes qui viennent d'ailleurs qui vont aller voir Welcome Place. Et il y a des Welcome Place, c'est pas comme InfoJustice dans le sens qu'ils n'offrent pas directement des services juridiques ou des conseils juridiques, mais plutôt c'est des conseils généraux pour des personnes des nouveaux arrivés. Mais eux autres, souvent, ils ont des agents qui vont aider le monde à déposer des demandes d'asile, par exemple. Donc, on retourne vers la personne qui a quitté son pays, il est au Canada, son visa risqué pour ses études, et voilà, il rencontre les agents à Welcome Place, et là-bas, on lui dit, écoute, vous avez le droit, puisque votre orientation sexuelle est illégale dans votre pays d'origine, vous avez le droit de demander l'asile ici. Parce que si vous retournez là-bas, vous ne serez plus libre. Vous ne serez pas libre à vivre votre vie. Et par exemple, dans le droit canadien, la jurisprudence nous dit que si quelqu'un doit cacher qui il est, il n'est pas libre. Et donc, le fait de devoir cacher quelqu'un, comme par exemple si la personne aurait retourné au pays et il cachait son orientation sexuelle, il pourrait peut-être vivre une belle vie, mais ce n'est pas une vie libre. Et donc, il a le droit de demander l'asile au Canada. Et donc, ça, c'est un exemple de quelqu'un qui aurait parcouru un chemin un peu qu'on est, disons, ce n'était pas directement de demander le statut de réfugié, il aurait venu au Canada. Et il aurait seulement réalisé qu'il avait le droit de demander asile une fois qu'il était ici. Et voilà, une fois qu'il l'a fait, c'est souvent chez une organisation comme Welcome Place où on va l'aider à faire sa demande d'asile. Et souvent, plusieurs mois plus tard, c'est là où on contacte l'avocat pour dire oui, j'ai reçu un avis d'audience devant la commission des réfugiés. Et à ce point-là, c'est là où souvent l'avocat s'implique. Alors, très, très souvent, je vois que les clients qui j'ai la chance d'aider dans ces types de demandes, ils viennent seulement me le voir une fois qu'ils ont déjà déposé leur demande. Et ce qui est très important pour un demandeur d'asile, c'est le fait d'être honnête et d'être crédible. Et donc, si, par exemple, on aurait mis de l'information dans sa demande qui n'est pas exact, il faut pouvoir corriger ces informations. Écoutez, souvent, je vois des clients qui n'ont peut-être pas les meilleures connaissances en anglais ou bien en français, et ils ont Ils ont été aidés par quelqu'un, par un agent, par exemple, chez Welcome Place, mais cette personne, il y a peut-être eu quelques problèmes de communication. Et c'est tout à fait possible que peut-être la demande contient d'informations qui n'est pas exacte, mais on peut expliquer ça ou bien on peut faire un amendement de la demande afin de répondre à ces questions. Alors, là, quand le client vient me voir, la personne qui a quitté son pays, là, je regarde ce qu'il a dit dans sa demande d'asile et je lui pose des questions très précises sur qu'est-ce qui s'est passé. Et je dois passer du temps avec cette personne afin de pouvoir comprendre, bon, d'abord, d'où la personne vient et qu'est-ce qui s'est arrivé dans la vie qui l'a amené à devoir demander l'asile. Écoute, personne ne veut demander l'asile. Ce n'est pas quelque chose qu'on aspire à faire. C'est pas comme ça. C'est plutôt quelqu'un qui se trouve dans une situation où il réalise, souvent, s'ils sont déjà au Canada et sont au Canada normalement, légalement, souvent, c'est des personnes qui sont soit des étudiants ou ils sont venus en visa, visiteur, visa de visiteur ou quoi. Mais c'est des personnes qui réalisent une fois qu'ils sont ici sur le terrain, c'est qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. Des autres exemples, je peux parler de, par exemple, des questions de corruption politique. Souvent, il y a des pays où on dit que c'est la démocratie, mais en réalité, c'est soit de l'anarchie ou il y a un dictateur
Oui.
qui tient le pouvoir avec ses amis. Il y a des pays comme, par exemple, il y a certains pays qui sont des États de pétrole où vraiment il y a des dictateurs qui vont contrôler tout. Je peux penser à il y a un pays, par exemple, au Moyen-Orient qui est sous la main des Russes, de Poutine. Et donc, en fait, je pense à un pays là-bas où le dictateur du pays, c'est le fils de l'ancien dictateur qui, lui, était le chef du KGB, donc la police secrète du pays, avant même qu'il ait devenu dictateur. Et donc, c'est juste à dire que il y a souvent des pays là-bas où il n'y a pas de liberté en termes d'expression de ses idées politiques, par exemple. Alors, c'est tout à fait possible que quelqu'un s'échappe du pays. Par exemple, il va demander un visa. Voici un autre exemple dont je peux parler encore une fois de façon générale. Mais j'en ai vu plusieurs personnes qui ont réussi à obtenir de leur pays des visas pour visiter les États-Unis. Souvent, on pense que c'est plus facile de se rendre au Canada que les États-Unis, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Dépendant du pays d'origine, parfois, c'est beaucoup plus facile de se rendre aux États-Unis. Alors, souvent, je vois des personnes qui se sont rendues aux États-Unis, par exemple à New York City, et par la suite, ils vont prendre. Bon, peut-être ils vont aller voir les mêmes types d'organisations comme Welcome Place, mais là-bas, parce qu'ils ont évidemment des organisations sociales là-bas qui vont essayer de donner des conseils à des personnes qui craignent de retourner chez eux. Mais là, ils vont prendre un taxi pour arriver à la frontière. Et récemment, en fait, on a vu la situation avec la famille qui venait de l'Inde, qui ont essayé de croiser la frontière par le biais des champs, des fermiers, de marchés là où malheureusement, ils sont décédés. Mais la réalité, c'est que souvent, on voit que des personnes qui se sont échappées de chez eux, par exemple, ils viennent aux États-Unis, ils vont croiser la frontière avec le Canada, non pas par un port désigné, c'est-à-dire c'est pas par un aéroport, par exemple, ou ce n'est pas par la frontière officielle, mais ils vont aller juste à travers le forêt pour arriver de l'autre bord de la frontière. Ils vont marcher. Donc, ils vont prendre comme un taxi de New York City pour aller à la frontière. Ils vont marcher de l'autre côté de la frontière. Et une fois qu'il arrive là, il appelle le 911 et la GRC vient les arrêter. Par la suite, ils sont détenus pendant un moment. Et là, les agents de la frontière, ils vont commencer le processus d'accepter la demande d'asile. Ils vont avoir un certain temps pour déposer toute l'information. Mais la raison pourquoi, je voulais juste expliquer ça, la raison pourquoi. On risque de croiser la frontière de cette façon, de la façon dite illégale, c'est parce qu'il y a un traité entre les États-Unis et le Canada. Si on se rend d'abord aux États-Unis, il faut absolument demander l'asile dans ce pays. Okay? Et si on arrive au Canada, il faut demander l'asile au Canada. L'exception des règles, c'est si la personne va croiser la frontière de façon illégale. Et donc, c'est un petit, disons, un loophole dans la loi. Mais la loi même, le traité est problématique et surtout, ça a été problématique récemment quand on a eu le président Trump. On avait les camps essentiellement où on mettait les demandeurs d'asile ou des autres immigrés. On les mettait dans les... c'était presque dans des cages, là. On voyait ça, c'était horrible. Et donc, il y a des personnes qui pensaient peut-être demander l'asile aux États-Unis, mais ont vu la circonstance que subissaient les immigrés là-bas et ont décidé que c'était trop dangereux. Et il y a même de la jurisprudence au Canada qui accepte le fait qu'il y a eu des situations difficiles aux États-Unis sous le régime de Trump. Maintenant, je ne sais pas si les choses sont vraiment améliorées avec Biden. On n'entend plus parler des camps et des cages, mais on ne sait vraiment pas si la chose est meilleure. Il me semble que normalement, au Canada, on est plus ouvert aux immigrés généralement qu'aux États-Unis. Je comprends très bien pourquoi quelqu'un voudrait croiser la frontière pour venir au Canada, où ils auraient la chance d'abord de rester dans le pays et de aussi d'avoir cette protection, de les protéger de la persécution qui vont peut-être subir s'ils retournent chez eux. Alors, parfois, ça, c'est une situation que je peux voir. Il y a aussi... la possibilité de faire des demandes directement pour des réfugiés, comme par exemple s'il y a quelqu'un ici, il y a des groupes communautaires, par exemple, qui peuvent demander une demande de réfugiés pour une famille qui est à l'étranger. C'est comme des processus privés là, pour financer l'arrivée d'une famille, par exemple, qui, je sais pas, qui est en Afghanistan, qui risque d'être persécutée en raison de leur ethnie. Il y a ce type de demande aussi, mais de ce que je vois au Canada, et peut-être ça c'est le plus intéressant pour les auditeurs ici, c'est des personnes qui se trouvent ici au Canada et qui réalisent à un moment donné qu'ils ne peuvent pas retourner chez eux. Et il y a plusieurs raisons pourquoi ils ne peuvent pas retourner, mais normalement, c'est des personnes qui craignent une violence qui va vraiment les cibler plus que les autres en raison de, par exemple, leur ethnie ou bien, comme je dis, leur orientation sexuelle, leur politique, s'ils sont membres, par exemple, du groupe en opposition du gouvernement. Écoutez, dans plusieurs pays, si on s'oppose au gouvernement, on risque d'être tué. C'est aussi simple. Je trouve ça un peu... comme ici au Canada, il y a tellement... On s'inquiète tellement d'un groupe de camionneurs qui s'installent aux législatures et puis ils sont bruyants, ils sont peut-être un peu méchants de temps en temps, peut-être ils fêtent un peu trop dans la rue, mais écoute, ça c'est le problème politique qu'on voit au Canada.
Oui.
Et si on était à l'étranger dans plusieurs pays, il y aurait le militaire serait là en train de tirer des personnes. Alors vraiment, je ne pense pas que les Canadiens, nécessairement les personnes, je dis les Canadiens dans le sens des personnes qui sont nées ici, qui n'ont jamais vécu ailleurs et peut-être qu'ils n'ont pas voyagé dans des pays où les systèmes sont un peu moins développés, disons, mais je pense qu'on le prend par acquis, la paix, le fait que la vie est tellement sécuritaire, le fait qu'on a le droit d'aller s'installer au législateur avec un camion, faisant plein de bruit, juste pour emmerder tout le monde autour de nous. Le fait qu'on peut faire ça sans avoir le risque d'être bon, d'abord sanctionné, on va voir s'il y a des sanctions, je ne crois pas qu'il va en avoir, mais ne pas être assujetti à des militaires qui vont nous attaquer. On ne voit pas que la police secrète, comme par exemple, il y a plusieurs pays où il y a des polices secrètes qui sont contrôlées directement par le gouvernement. Très, très souvent, surtout chez les dictateurs, surtout chez les pays où il y a un dictateur, mais on a dit démocratique. Souvent, dès qu'on voit démocratique dans le titre du nom du pays, on sait bien que c'est vraiment pas
C'est pas
démocratique.
ça. Oui, exactement. En tout cas, je suis très content, vraiment. Mais parlant de la demande d'asile, maître, je dois avouer réellement que au Manitoba en général et beaucoup plus à Winnipeg en particulier, il n'est pas facile de trouver un avocat qui traite les dossiers de la demande d'asile en français et en anglais également. Tel est ton cas. En tout cas, là, je dois quand même avouer que c'est vraiment quelque chose de très bien. Ce que vous faites, ce que tu fais là, c'est très bien ici à Winnipeg ou au Manitoba en général. Mais est-ce que quelle peut être ta position pour un demandeur d'asile qui, avant de consulter l'avocat, il dépose d'abord sa demande ou avant de déposer, il consulte d'abord l'avocat qu'il peut trouver? Quelle peut être ta position devant ce cas-là? Déposer et demander, voir l'avocat après? Ou bien voir l'avocat avant de déposer la demande d'asile.
Il y a toujours un avantage de pouvoir passer le temps devant un avocat, d'obtenir des conseils avant de faire une demande. Mais la réalité, c'est que ce n'est souvent pas possible. Très souvent, quelqu'un va devoir faire la demande d'abord et par la suite obtenir des conseils. Je dirais, ce n'est pas trop tard si quelqu'un a déjà déposer sa demande. Ce n'est pas trop tard pour aller obtenir des conseils. Et je vais peut-être expliquer un peu, comme vous avez dit, vous avez souligné l'importance de la langue et de pouvoir communiquer dans une langue, dans le français, voilà, dans cette situation. Mais ce que je vois, c'est très important de pouvoir bien communiquer avec la personne, le client, parce qu'il faut comprendre d'où vient cette personne. Par exemple, si on parle, encore une fois, général, je ne parle pas d'un cas spécifique, mais généralement, vous venez du Congo, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Et un des peuples, le plus, un des ethnies le plus répandu au Congo, c'est les Luba, par exemple.
Parfaitement.
Alors, si on sait bien que les Luba, ils ont certains traits culturels, et un des traits culturels, c'est normalement, c'est très patriarcal. Ça veut dire que les femmes sont souvent, sont pas nécessairement, par exemple, impliquées dans toutes les décisions financières et ça. Et il y a un autre désavantage que les femmes peuvent subir au Congo, dans cette ethnie, c'est le fait de ne pas avoir la chance d'obtenir du crédit. Alors, si une femme va devoir retourner là seule et elle n'a pas des moyens, elle n'a pas de la famille pour le supporter, elle va se trouver dans une situation où elle n'a peut-être nulle part à vivre. Elle va peut-être devoir échanger, par exemple, des relations intimes pour du logement. Elle va peut-être subir le risque d'être, par exemple, et c'est horrible et c'est triste de dire ça, mais d'être violée. Et si, par exemple, cette personne retourne vers la Kasaï, par exemple, c'est la province ou l'État, je ne sais pas.
Parfait.
Bon, là, c'est ça. C'est l'origine, comme généralement, du tribu. Là, on va trouver un droit coutumier plutôt que le droit légal, le code civil. Et dans cette région-là, il y a des choses qui arrivent, comme par exemple, une femme ne va pas recevoir un patrimoine de son mari. Ça va plutôt aux enfants directement. Et donc, si on connaît bien, comme avocat, si on peut bien communiquer avec le client et comprendre d'où vient cette personne, qu'est-ce que cette personne a subi dans la vie ou a vécu, ce n'est pas nécessairement du mauvais, mais c'est ce que la personne aurait vécu, ça nous permet de comprendre pourquoi la personne aurait cette véritable crainte de retourner dans son pays. Et notre rôle comme avocat, si, et peut-être je veux parler, et peut-être vous pouvez par exemple me demander une question par la suite de comment le processus marche devant le tribunal une fois qu'on arrive à l'audience. Mais c'est très important de connaître d'où vient la personne, de connaître sa culture, sa langue, de pouvoir bien communiquer et aussi de pouvoir remarquer des petits traits qui pourraient nous aider dans l'audience. Moi, mon rôle comme avocat, c'est essayer d'abord de m'assurer que le demandeur peut bien communiquer sa situation à l'agent qui va faire la décision ou à commissaire qui va faire la décision, mais aussi de m'assurer que tout En droit, on parle souvent de la boîte. La boîte contient certaines obligations et si on peut vraiment mettre à l'emphase le fait que ces obligations sont remplies, que ces faits sont là, alors là, la commissaire pourrait donner la décision d'autoriser l'asile, d'accepter la demande d'asile. C'est pour ça que la langue est tellement importante. Et ça prend du temps entre l'avocat et le client de s'asseoir et de parler. C'est important que le client soit confortable avec l'avocat parce que souvent, la personne va devoir parler des choses qui sont très difficiles à exprimer. La peur de la violence, soit physique, sexuelle. Il y a vraiment des situations où on doit parler de ces situations, mais c'est difficile. Et donc, il faut avoir une certaine relation de confiance entre l'avocat et la personne, la demandeur, la personne qui va demander l'asile, afin de bien comprendre la situation de la personne, afin qu'on puisse s'assurer de bien exprimer la situation, de bien communiquer la situation au commissaire qui va rendre la décision dessus.
Alors là-dessus, Maître Steve, bonjour. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il arrive que pour certains de ses clients, lorsqu'on fait une demande d'asile, il faut, comme avocat, que tu fasses certaines recherches, je ne sais pas, sur ce pays spécifique, sur les cultures? On voit là que, évidemment, tu as ramassé des connaissances sur le Congo, par exemple. Alors, comment est-ce que tu t'informes là-dessus, sur ces cultures, ces pays, pour avancer le cas à celle qui va faire la décision? Quelles sortes de preuves est-ce que tu peux fournir et puis comment ça marche ce côté-là?
Bon, pour répondre à la question, je dois toujours faire des recherches. Même si je crois que je connais bien le pays, dans plusieurs mois, la situation peut changer. C'est tout à fait possible que le gouvernement du Canada a pris la position qu'un pays est dangereux aujourd'hui, mais dans 6 mois plus tard, le pays n'est plus dangereux parce qu'ils ont la confiance dans le nouvel gouvernement. Et là, peut-être 3 mois, on voit que le nouveau gouvernement est en fait contrôlé par l'ancien dictateur, ce qui arrive très souvent, ou bien le fils de l'ancien président devient le nouveau président. Et c'est comme un échange entre des amis qui font semblant d'être en opposition, mais qui sont en train de travailler ensemble. De toute façon, c'est pour dire qu'il faut toujours faire cette recherche. Maintenant, il y a une chose qui est très, très utile. La Commission et du statut de réfugiés du Canada, ils ont ce qui est appelé le cartable national de documentation. C'est-à-dire, pour chaque pays au monde, bon, je crois que tous les pays sont là, sont présents, ou plusieurs pays de toute façon, il y a tout un cartable de preuves qui sont acceptées comme étant objectifs et véritables par la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés du Canada. C'est-à-dire qu'on peut, comme avocat, se fier sur ces cartables de recherche. Et des fois, c'est des projets de recherche qui sont entrepris par le gouvernement. Comme par exemple, il y a eu une question et donc des chercheurs du gouvernement du Canada, ils ont fait des recherches et ils ont décidé que, par exemple, je me souviens à un moment donné, il y avait un pays du Moyen-Orient, un certain groupe politique, il a des cartes. Comme des cartes d'adhésion au parti politique. Alors, la question s'est posée devant le gouvernement du Canada. Bon, est-ce que ce parti politique donne véritablement des cartes d'adhésion ou est-ce que c'est des cartes qui sont faites de contrefaçon pour essayer d'aider à des demandes d'asile de ce pays en particulier. Alors, le gouvernement a enquêté. Ils ont trouvé à un moment donné que oui, il y avait des véritables cartes, mais plus tard, le parti avait arrêté. Et donc, on pourrait utiliser une des questions posées à quelqu'un, j'ai vu. La question, c'est bien, pourquoi vous n'avez pas de carte? Alors, j'ai pu regarder objectivement au projet de recherche du gouvernement du Canada qui disait oui, en fait, il n'y a plus de carte par les membres de ces partis politiques. Donc, ça s'explique. Le rôle du commissaire, d'abord dans les circonstances où il y a une demande d'asile, c'est de déterminer la crédibilité du demandeur. C'est-à-dire, ils vont toujours accepter que le témoignage commence en étant véritable. Ça veut dire, c'est le début de l'analyse. Il dit que oui, on croit ce que la personne dit. Il y a une présomption que c'est vrai. Mais ils vont regarder pour des questions où il y a de l'incertitude. Comme par exemple, si dans la demande d'asile, on aurait représenté qu'on n'avait aucune membre de famille au Canada, mais plus tard, on voit qu'en fait, qu'il y avait plusieurs membres de famille. Et là, il faut expliquer pourquoi. Alors que moi, comme avocat, si j'aurais bien passé du temps en regardant la demande même, parce que je dois toujours obtenir une copie de la demande, et posant des questions à mon client, alors je peux voir, OK, il y a eu un problème de traduction. Dans certaines cultures, j'ai vu ça récemment, dans certaines cultures, on va dire que l'exemple dont je pense, c'est en Afrique de l'Est. Dans certaines cultures là-bas, si on dit la famille, on parle seulement de la parenté directe. On ne parle pas des cousins, par exemple, ou des tantes ou des oncles. Mais au Canada, si on parle de la famille, on va commencer à parler de toutes ces personnes. Right? Le concept de famille est peut-être plus élargi que dans ce pays, dans cette culture de l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire, il y a peut-être eu simplement un problème de communication. Et si on peut trouver dans le cartable de documents des preuves objectives qui démontrent qu'il y a eu cette différence culturelle, alors on peut utiliser ça pour expliquer pourquoi il y aurait une réponse qui n'est pas exacte dans la base initiale. Alors, c'est un peu ça le type de preuve. Il y a d'autres choses qui sont souvent là, par exemple, des rapports des organisations à but non lucratif international, Médecins sans frontières, des organisations de ce genre, où il y a des enquêtes dans plusieurs pays. Il y a une organisation, je crois que c'est américain, qui s'appelle Freedom House. Et là-bas, ils vont vérifier, ils vont faire des recherches dans tous les pays du monde pour voir s'il y a la liberté d'expression, s'il y a la liberté quant à la politique. Est-ce qu'on peut être membre du parti en opposition ou est-ce qu'on risque que des agents secrets vont passer à notre maison pour intimider nos parents, pour nous battre, pour nous mettre en prison pendant des mois? On peut voir si, par exemple, il y a des mines qui sont contrôlées par des agents du gouvernement. Et si jamais on commence à mettre par exemple, en journalisme, les journalistes, ils commencent à mettre, partager les connaissances par rapport à ça, ils risquent d'être attaqués, de se faire mettre en prison pour des raisons politiques. Et donc, on peut voir des preuves de ce type pour appuyer la cause. Mais à chaque fois qu'on a un client, il faut d'abord parler au client pour obtenir plus d'informations, pour comprendre sa situation. Par la suite, il faut faire ses vérifications personnelles pour voir s'il y a des preuves objectives qu'on peut utiliser pour appuyer les faits qui sont rencontrés par la personne. Alors là, ça nous permet un peu de bouger de la question de la crédibilité envers... la prochaine question chez les demandeurs d'asile, c'est est-ce qu'il y a un craint subjectif? C'est-à-dire, est-ce que la personne eux-mêmes craint véritablement de retourner dans leur pays en raison des questions de persécution? Pour une personne, par exemple, pour une femme qui a subi des menaces qu'elle va se faire violer et tuer parce que à cause de son orientation sexuelle dans un pays où c'est interdit. Évidemment, il y a des craintes subjectives, mais il faut pouvoir prouver de ce que la personne a enduré, ce que la personne a subi, ça donne effet à un craint subjectif qu'on peut voir véritablement cette personne-là craint de subir le préjudice si la personne est retournée, de persécution si la personne est retournée. Et là, avec les preuves, on finit avec en parlant des preuves objectives. C'est-à-dire, Freedom House a démontré carrément que dans ce pays-là, il n'y a aucune liberté d'expression quant à la politique. C'est-à-dire, on a des preuves que des membres de l'opposition sont souvent persécutés par des agents secrets de la police. La personne a peur que si elle revient dans son pays, elle va se faire arrêter immédiatement à l'aéroport par les agents secrets parce que, voilà, on voit objectivement que ce pays a des contrôles très précis sur toutes les entrées et, tout le monde qui rentre, qui part du pays. Et la seule façon de partir du pays sans avoir l'autorisation du gouvernement, c'est de donner de l'argent à quelqu'un qui travaille à l'aéroport dans un petit sac, sac en papier. Vous comprenez, c'est une question de donner en anglais, on dit un bribe, peut-être en français, on pourrait dire un pot de vin, mais oui, de toute façon, c'est essentiellement de partir de façon illégale.
Alors, maître, je veux savoir, je sais que peut-être nous sommes en train de faire le survol de ces sujets, on ne peut pas peut-être rentrer beaucoup plus en détail, mais à supposer que l'agent de l'immigration ou bien le commissaire n'est pas convaincu et qu'il a rejeté la demande de la personne concernée, est-ce qu'il y a-t-il de voies de recours qui sont prévues pour que la personne puisse aller encore au-delà ou bien elle sera obligée de retourner dans son pays automatiquement?
Il y a toujours des moyens d'appeler une décision. Et même à l'intérieur de la commission de l'immigration et du statut des réfugiés, il y a une division des appels. Alors, on peut appeler la décision, on peut faire un appel de la décision et on peut demander que la décision soit révisée par la prochaine étape essentiellement, c'est par un autre tribunal. C'est pas encore par la cour, mais c'est par un tribunal. Et là, il faut prouver, par exemple, qu'il y a eu une erreur de droit qui a été commise par la décision du premier volet. Là. C'est pas évident. Les appels sont normalement assez difficiles, mais il y a toujours la possibilité de le faire. Alors, c'est possible. Il faut faire son appel très rapidement après avoir reçu la décision. Le délai est très court. Alors, si quelqu'un perd sa demande d'asile et reçoit la décision, c'est important d'aller voir immédiatement le jour même où on reçoit le refus. Il faut contacter l'avocat parce que l'avocat va devoir soumettre des informations très rapidement quant à l'appel. Et si on perd l'appel aussi, il y a un moyen qu'on peut demander la révision judiciaire de l'appel, mais encore une fois, c'est très, très difficile et les chances de trouver un succès dans cette situation sont quand même assez minimes. Ça prend vraiment une erreur de droit grave pour obtenir une décision favorable de la Cour fédérale quand on parle de la révision judiciaire. Essentiellement, c'est ce qui s'appelle un writ of certiorari. C'est du latin qui veut dire que la Cour supérieure va porter une ordonnance sur le tribunal de changer leur décision en raison de la révision judiciaire. Et c'est permis là, par le biais de l'acte, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Alors, c'est par le biais de cette loi qu'on peut se faire appel, soit au tribunal d'appel, ou soit par la suite à la Cour fédérale. Je suggère l'affaire la plus importante pourtant, c'est de, si possible, d'embaucher un avocat pour le processus initial, parce que c'est à ce moment-là où les preuves vont être apportées au tribunal. Par exemple, si on a des documents à l'appui de nos allégations, si on fait des allégations on subit de la persécution en raison de notre alliance politique dans notre pays d'origine. C'est important d'avoir des documents qui démontrent qu'on a reçu, par exemple, une contravention des autorités ou une convocation pour aller voir les agents secrets, par exemple. Ça va appuyer notre cause. Mais c'est absolument très important de pouvoir donner ses preuves à à l'audience au début du processus. Il faut absolument le faire. Et il y a un délai. Il faut donner ces documents au moins 10 jours en avant de l'audience. Mmh. Et ça doit être donné au tribunal dans un certain format. Il faut suivre le certain format. Alors, l'avocat, il va connaître, bien connaître le format. Il va s'assurer que tous les documents sont devant la commissaire qui va rendre décision. Parce que si on ne fait pas ça, on peut perdre l'opportunité de le faire. Voilà, c'est très important pour bien présenter sa cause et pour bien avoir des preuves à l'appui de sa cause.
Je pense qu'on voit vraiment l'importance de la langue française ici, de la connexion avec ses clients. Parce que, comme on vient de dire, oui, il y a ces divisions d'appel, il y a ces étapes qui peuvent venir après, mais on devient de plus en plus limité. On parle de toutes sortes de les craintes et les dangers qu'on peut exposer à l'audience initiale, mais lorsqu'on va en appel, on ne va pas amener des nouveaux faits, ça va être des erreurs de droit, ça va être très limité les circonstances dans lesquelles on pourra reviser cette question. Alors, le plus, je pense qu'on voit que le plus qu'on peut bien communiquer avec son avocat au début, ça aide parce qu'il y a toutes ces dimensions subjectives et objectives. Il faut avoir cette crainte subjective, mais il faut quand même y avoir des choses en place qui sont réelles et pas juste des cartes d'adhésion qui sont fictives ou fictives pour justement aider à cette fin. Alors, il faut avoir toute une très bonne communication avec son avocat à ce stade-là. Et puis, je pense qu'on voit la force que tu amènes à ces dossiers en travaillant de cette manière. Et puis, je pense qu'on pourrait dire que c'est particulièrement important dans le domaine de l'immigration, mais il faut souligner avant qu'on quitte là que Maître McIntosh, Maître Steven, il a son cabinet McIntosh Law and Technology, mais il sert dans beaucoup plus d'autres domaines aussi. On a parlé un peu d'achat de la maison au début, de testament. Plusieurs domaines que Maître Steve traite peuvent aussi profiter d'une telle communication, une telle compréhension, même culturelle, linguistique au niveau de l'avocat. Alors, je pense que c'est tout un atout que tu amènes, Maître Steven, à ta pratique. Ça nous fait plaisir, c'est vraiment agréable chaque fois de parler avec toi. Ça faisait un petit bout de temps qu'on l'a fait à la radio. Alors, ça fait vraiment plaisir. Et puis, sûrement, on va vous réinviter bientôt, j'espère. Mais on sait que tu es bien occupé avec tes dossiers d'immigration et les autres. Alors, on va vous souhaiter une très belle journée. Et une très belle journée à nos auditeurs également. Vous avez suivi ici à la radio Envol 91 FM l'émission Parlons droit. Moi, c'est Tariq Daoudi. Et puis, mes collègues Jana Vandal et Kate Kabangu étaient là avec moi aujourd'hui. Notre invité très spécial aujourd'hui encore une fois, Maître Steven McIntosh du cabinet McIntosh Law and Technology qui est ici à Saint-Boniface. Si vous voulez chercher un avocat francophone au Manitoba, contactez infojustice.ca ou bien 204-815-5274 et puis on peut vous brancher avec un avocat justement comme Maître McIntosh ou bien d'autres dans notre annuaire d'avocats francophones. Alors, on va vous dire à tous et à toutes une très belle journée et on est de retour en 2 semaines à la radio Envol 91 FM. Merci. Ciao.
Merci.